Oui, on va parler de santé de l'Organisation mondiale de la santé en compagnie de notre prochaine invitée, Mme Maika Sundarji, qui est chercheuse postdoctorale Banting, Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Mme Sundarji, bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que l'OMS, selon vous, vous suivez ça de très, très près, elle est critiquée de toutes parts, surtout de la part de Donald Trump, des Américains. Est-ce que mondialement, les pays sont assez satisfaits de la façon dont l'OMS gère la crise mondiale, la crise sanitaire?
Mais je pense qu'avec les organisations internationales, tout le monde n'est jamais satisfait à 100%. Là. À chaque fois qu'il y a eu une crise, il y avait des critiques là, à l'Organisation mondiale de la santé. Que ce soit, si on se rappelle bien, H1N1, là, l'organisation avait agi trop rapidement, Ebola pas assez rapidement, et là, bon, on l'accuse d'être trop près de la Chine. Donc, il y a toujours des critiques, mais je pense que, bizarrement, Trump et les États-Unis en ce moment sont mis un peu de côté parce que la plupart des pays sont assez satisfaits et reconnaissent l'importance là, de la coordination. Je veux dire, c'est une crise mondiale. Ça a été une des plus grosses crises depuis des années, sinon la plus grande. Donc, je pense que les pays sont assez satisfaits.
Est-ce que l'OMS est obligée de jouer le jeu de la politique en répondant parfois de façon directe ou indirecte aux propos du président américain?
C'est sûr qu'ils doivent jouer un jeu politique parce que l'Organisation mondiale de la santé n'est qu'une coquille que les États utilisent. En fait, c'est un forum qui s'occupe de santé, de science, en fait, de la santé. Et donc, ils sont obligés un peu de se plier à la Chine, aux États-Unis. Donc, ils sont obligés de jouer un jeu diplomatique et de suivre les intérêts parce que c'est les pays qui décident de financer ou non l'organisation. Et là, comme on a pu le voir, les États-Unis ont décidé de peut-être enlever leur financement. Donc, ils sont obligés là, de se plier un peu. C'est un peu le couteau à double tranchant. Là, on les accuse de pas être assez efficaces, mais en même temps, ils n'ont pas le pouvoir d'imposer quoi que ce soit sur les États. Donc, vraiment, comme vous le dites, là, ils sont obligés de jouer un jeu politique, là, c'est ça.
Jusqu'à quel point l'OMS dépend des États-Unis et de son financement?
Mais en fait, on a beaucoup eu de remous dans les médias ces temps-ci parce qu'on pensait que si les États-Unis partaient, là, ils partent plus, que s'ils partaient, ce serait la chute de l'OMS. Mais en fait, les États-Unis financent beaucoup l'OMS, mais ce n'est pas extraordinaire. La Chine a déjà offert de remplacer les États-Unis et le Canada et d'autres pays vont probablement suivre le pas. Là. Donc, c'est 400 millions. C'est beaucoup, c'est 20% du financement de l'organisation, mais je pense que surtout en temps de crise, là, les autres pays vont finalement combler le vide. Puis de toute façon, tous les experts disent que si les États-Unis s'en vont, c'est un mauvais choix politique, c'est un mauvais choix diplomatique. Donc, en tout cas, on gagera pas, mais j'ai l'impression que les États-Unis ne partiront pas après l'enquête là, indépendante qui doit avoir lieu ce mois-ci.
Est-ce que vous êtes d'accord avec les critiques des Américains envers l'OMS?
Il y a des critiques légitimes, c'est sûr, évidemment. Je pense que du fait de ce qu'est l'OMS, c'est certain qu'ils ont agi un peu tard. Ils ont été obligés d'un peu faire bon enfant avec la Chine pour pouvoir avoir accès à Wuhan. Dans le fond, la Chine a dit qu'il y avait des cas de coronavirus en décembre. À mi-janvier, ils ont dit qu'il y avait une crise sanitaire mondiale. Et mi-février, ils ont eu accès à la Chine. Mais il a fallu qu'ils soient très, très gentils avec la Chine pour que la Chine les laisse entrer. On se rappelle, ils ont mis tous les journalistes dehors. La Chine n'est pas le type de pays qui laisse entrer toutes les organisations de l'ONU pour faire des vérifications. Donc, il a vraiment fallu qu'ils jouent le jeu. Donc ça, c'est une critique compréhensible, mais en même temps, de dire que l'OMS est dirigée par les États, par la Chine. Il y a certaines critiques, on s'entend, là, de la famille Trump au grand complet qui sont un petit peu tirées par les cheveux. Là. Même aujourd'hui, je voyais une vidéo de théorie du complot là, partagée par le fils de Donald Trump Jr., en fait, le fils du président, je pense qu'ils vont un petit peu loin là, dans leur lubie. Mais il y a certaines critiques, évidemment, qui sont vraies, mais qui, comme je vous dis, là, ça part de ce qu'on a donné comme mandat à l'OMS. On critique l'OMS de jouer le jeu de la Chine, mais en même temps, s'ils veulent faire leur travail, c'est-à-dire trouver une solution au virus, ils doivent jouer ce jeu politique un peu aussi.
Les États-Unis ont-ils une alternative à l'OMS quand ils menacent de se retirer? C'est juste du blabla ou ils ont autre chose en tête?
Mais en fait, c'est quand même la plus grande organisation, c'est celle qui scientifiquement est le plus établie, mais en 2014, les États-Unis ont fondé la Global Health Security Agenda, qui est comme une organisation qui s'occupe de santé mondiale. Il y a 67 membres déjà, donc j'ai l'impression qu'ils l'ont refinancé pour éventuellement peut-être lui donner plus de pouvoir, mais comme c'est une organisation encore qui serait encore plus dirigée par les États-Unis, il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Là. D'ailleurs, cette organisation-là, déjà, sa méthode de fonctionnement, c'est qu'ils veulent installer des systèmes de surveillance, dans le fond, dans les pays, pour pouvoir détecter rapidement les centres de propagation, comme pour éviter la propagation, mais pas pour protéger les populations locales ou pour qu'on soit plus résilient en termes de santé. Là, c'est vraiment juste pour protéger les États-Unis. Au fond, c'est dès que les États-Unis font une organisation alternative, c'est très, très nationaliste. Et on voit là, les réponses en ce moment. Bizarrement, là, la crise nous révèle comment on est connecté entre pays. Et les États-Unis, surtout, se mettent à être ultra-nationalistes, ultra-fermés, repli sur soi. Ils sont en guerre pour la création du vaccin. Ils ont déjà dit que s'il y avait un vaccin, ils allaient le garder pour eux. Mais là, c'est d'après moi, c'est pas la bonne solution. Puis s'ils se retirent de l'OMS, un autre problème, c'est qu'ils n'ont pas accès aux avancées technologiques que l'OMS partage. S'ils se retirent de l'OMS, t'as pas accès à ça.
J'aimerais ça vous reparler de vaccins puis de la supposée collaboration internationale. Je sais qu'il y en a, mais je suis pas sûr qu'il y en a partout. Mais en conclusion, j'ai peut-être juste 30 secondes. À quoi sera évalué, comment on va évaluer l'OMS à l'issue de tout ça? Sur quoi?
Mais le problème, c'est qu'on ne saura pas avant la fin de la crise avec une évaluation de la gestion complète si ils ont bien fait ou non. Là. Ça va être dans les prochains mois, les prochaines années qu'on va pouvoir le savoir.
Bien, très intéressant en tout cas votre article. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Pour plaisir de vous reparler.
Merci, bonne soirée.
Merci vous aussi, Maika Sundarji, qui est chercheuse postdoctorale au Centre d'études et de recherche internationale à l'Université de Montréal. On revient dans quelques instants pour la suite. Notre prochaine invitée, Égide Royer, psychologue spécialiste en réussite scolaire et professeur associé à l'Université Laval. Lui, il croit que les enfants doivent aller à l'école.